Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Vous, puisque je viens de Bretagne, je ne suis pas venu spécialement pour ça. Je me suis arrêté à Marseille, où je viens plusieurs fois par an, notamment pour travailler avec des frères là-bas à une nouvelle traduction de la Bible. Alors c'était à cette occasion que j'étais là-bas, et ça a été aussi l'occasion de venir jusqu'à vous ce matin. Alors je voudrais que nous puissions ouvrir ce matin la parole du Seigneur dans le premier livre des Rois, au chapitre 5, et nous lisons au verset 10. Premier livre des Rois, chapitre 5, et verset 10. Où il est question de la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Zrachites, plus qu'Éman, Calcol, Darta et les fils de Machol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations environnantes. Il a prononcé 3000 proverbes, et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort du mur. Voilà, c'est sur ce dernier verset que j'aimerais que nous réfléchissions quelques instants ce matin. Il a parlé sur tous les arbres, depuis le cèdre, jusqu'à l'hysope qui sort du mur ou qui sort du rocher. Ici, il est question de cette sagesse de Salomon. Et ce matin, nous allons être amenés à faire une petite visite du pays d'Israël et de la nature. Ah, ça va comme ça, c'est mieux? Voilà. Nous allons nous arrêter sur quelques-uns des arbres du pays d'Israël et leur signification spirituelle. C'est un des visiteurs du 19e siècle du pays d'Israël qui s'appelait Ernest Renan, c'était un Français, qui au retour de son voyage a dit ceci: la terre d'Israël, c'est le cinquième évangile. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que tout nous parle de la Bible, que tout nous parle de Jésus. Et nous savons comment Jésus lui-même a souvent employé des paraboles tirées des plantes, des arbres, des phénomènes naturels tels que les semailles, les moissons, tels que le fait que les pluies sont annoncées par le fait que le ciel devient rouge, etc. Alors ce matin, nous n'avons pas parlé de tous les arbres comme Salomon. D'abord parce que je n'ai pas la sagesse de Salomon et que je serais incapable de faire ce qu'il a fait. Et deuxièmement parce que bien sûr cela nous entraînerait trop loin. Mais je vais prendre quelques arbres qui ont effectivement une signification spirituelle. Les deux premiers, ce sont ces arbres qui sont cités justement dans notre texte, le cèdre et l'hysope. Il a parlé sur tous les arbres, depuis le plus grand, le cèdre, jusqu'au plus petit, l'hysope. Le cèdre, le plus grand, ce cèdre qui est dans la mentalité biblique un petit peu ce que le lion est dans notre imaginaire occidental. Le lion, c'est le roi des animaux. Et de la même manière, pour les orientaux, le cèdre est le roi des arbres, le plus grand. C'est un bois qui pousse essentiellement dans les montagnes du Liban et qui était utilisé parce que quand il est fraîchement coupé, c'est un bois qui est très facile à travailler. Mais lorsque il durcit, eh bien, il devient quasi indestructible. C'est pourquoi c'était un bois extrêmement précieux et qui était employé notamment pour la construction des palais des rois ou des temples. On sait notamment que Salomon, justement, a construit et son palais et le temple du Seigneur avec des cèdres qui sont venus du Liban. Mais parce que ce cèdre était considéré comme le roi des arbres, il était aussi l'image de l'orgueil. Et dans la Bible, souvent, le Seigneur s'en prend à ceux qui sont orgueilleux comme les cèdres du Liban. Et alors, à l'autre extrémité, il y a le plus petit de tous les arbres, l'hysope. L'hysope qui pousse dans le creux du rocher. C'est tout à fait étonnant de voir dans quelles conditions l'hysope peut en effet pousser. On a l'impression parfois qu'elle s'accroche effectivement au rocher et qu'elle n'est pas nourrie du tout par une autre substance que ce qu'elle trouve sur le rocher. Et si le cèdre est l'image de l'orgueil, parce qu'il est visible, parce qu'il est grand, parce qu'il est majestueux, parce qu'il en impose, parce qu'il est précieux aussi, nous l'avons vu, l'hysope se caractérise au contraire par sa discrétion. Et ce faisant, elle est le symbole de l'humilité. Elle est le symbole aussi de la pureté. Parce que déjà les anciens savaient que cette plante avait des capacités, des possibilités antiseptiques. Elle était donc utilisée en médecine. Et c'était une raison pour laquelle aussi c'était une plante qui était très appréciée, mais qu'il fallait rechercher avec beaucoup de soin, parce qu'à l'inverse du cèdre, on ne la voit pas beaucoup. Et le cèdre et l'hysope sont liés aussi dans un autre épisode que nous lisons dans le livre du Lévitique, où il est question de la purification du lépreux. Lorsque le lépreux est purifié, il doit venir faire constater par le prêtre sa guérison, et en même temps il doit offrir en sacrifice deux jeunes pigeons et apporter au Seigneur une branche de cèdre et une branche d'hysope. Pourquoi cela? Dans la tradition juive, la lèpre est considérée comme étant la punition de l'orgueil. L'orgueil qui est à la base pratiquement de tous les péchés. C'est par orgueil que Satan est tombé dans le péché. C'est par orgueil qu'ensuite qu'il a fait tomber Adam et Ève dans le péché en leur disant « Vous serez comme Dieu ». Par conséquent, l'orgueil est à l'origine de tous les péchés et la lèpre est une maladie très particulière dans la Bible. Et il y a beaucoup de textes qui la décrivent parce que justement, selon les sages, elle serait la punition de l'orgueil. C'est ainsi que lorsque Myriam, la sœur d'Aaron, s'est enorgueillie au point de s'en prendre à Moïse, elle a été frappée de la lèpre. Nous entendons aussi parler de ce roi qui se nommait Ouzias, qui était devenu tellement imbu de lui-même qu'il s'était permis d'accomplir dans le temple des fonctions qui n'appartenaient qu'au grand prêtre. C'était un geste d'orgueil. Et le grand prêtre était allé affronter le roi en disant « Tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais. » Et le roi avait un encensoir à la main. Il allait lever son encensoir pour en frapper le grand prêtre lorsque la lèpre a éclaté sur son front en punition de son orgueil. Nous lisons aussi l'histoire de ce général syrien qui se nommait Naaman et qui était un homme qui avait remporté de nombreuses victoires militaires et qui par conséquent était un homme qui était rempli d'orgueil et de suffisance. Mais voilà, nous dit le texte biblique, il avait tout pour réussir, il était célèbre, il était riche, mais il était lépreux. Et vous vous souvenez de l'histoire de cette petite jeune fille israélite qui se trouvait esclave chez ce personnage, ce grand personnage, et qui avait parlé à la femme de Naaman en disant « Mais si le prophète connaissait, si mon Seigneur connaissait le prophète qui était à Samarie, et disait, il pourrait le guérir de sa lèpre. » Et c'est ainsi que Naaman était parti pour aller vers Élisée. Et bien entendu, il était parti comme un grand personnage se doit de le faire, avec une escorte imposante, avec des serviteurs, et puis évidemment aussi avec des présents royaux pour honorer l'homme de Dieu qui l'aurait ensuite guéri. Et il arrive devant la petite maison d'Élisée, et Élisée le traite d'une drôle de manière, vous vous en souvenez ? Je dirais qu'il le traite d'une manière totalement discourtoise. Il n'a même pas l'élémentaire politesse de sortir pour saluer son hôte. Il se contente de lui envoyer son serviteur en lui disant « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. » Quel camouflé pour cet homme orgueilleux! Comment? Alors que je suis le général de l'armée syrienne, voilà comment il me traite. Et moi qui étais venu avec de l'argent, de l'or pour l'honorer. Eh bien, si c'est comme ça, je retourne dans mon pays. Et cet homme était fort en colère. Son orgueil avait été terriblement blessé. Et quand il s'est un peu calmé, ses serviteurs lui disent, écoute, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait? Bien sûr qu'il l'aurait fait. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être guéri, n'est-ce pas? Il te demande quelque chose de facile. Aller te tremper 7 fois dans l'eau du Jourdain, qu'est-ce que tu risques? Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera toujours pas de mal. Essaye. Et finalement, c'était la voie du bon sens. Pourquoi le prophète a fait-il traiter de cette manière? Parce qu'avant d'être guéri de sa lèpre, il fallait qu'il soit guéri de son orgueil. Et c'est quand il a accepté justement de s'humilier, de faire ce qu'il ne voulait pas faire, ce que son orgueil voulait l'empêcher de faire, c'est à ce moment-là, quand il s'est plongé dans l'eau du Jourdain, nous était dit que sa chair est redevenue comme celle d'un jeune enfant. C'est très intéressant, cette expression comme celle d'un jeune enfant. Parce que le propre du jeune enfant, c'est qu'il est humble, justement. Et c'est quand cet homme, qui était orgueilleux comme un cèdre, est devenu humble comme un petit enfant, que sa chair est redevenue aussi comme celle d'un petit enfant. Et voyez-vous, je reviens maintenant à mon lépreux, qui devait amener au grand prêtre, quand il était purifié, une branche de cèdre et une branche d'hysope. Qu'est-ce qu'il voulait dire de cette manière? J'ai été orgueilleux comme ce cèdre, et le Seigneur m'a puni, m'a frappé. Et quand je suis devenu humble comme ce buisson, cette branche d'hysope, le Seigneur m'a guéri et le Seigneur m'a relevé. Vous vous souvenez aussi que lorsque Jésus était sur la croix, il a dit « J'ai soif ». Et il y avait là un seau, une cruche, avec de l'eau, avec du vinaigre. On a trempé une éponge dans ce vinaigre et on a mis cette éponge sur une branche d'hysope. Et on a donné à boire à Jésus avant qu'il ne meure et qu'il dise « Tout est accompli ». L'hysope, image d'humilité. Jésus s'est humilié lui-même jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et Salomon donc a parlé sur tous les arbres, depuis ce cèdre du Liban jusqu'à l'hysope. Alors, je voudrais prendre maintenant, après avoir pris ces deux arbres, quelques autres arbres. Parmi les plus importants arbres bibliques et qu'on trouve aussi au Moyen-Orient, on trouve le palmier. Le palmier, c'est essentiellement l'arbre du désert. Lorsque on voit un palmier ou un groupe de palmiers dans le désert, le palmier est rarement seul, alors on sait qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau à cet endroit et par conséquent, voir un palmier quand on est perdu dans le désert, c'est avoir un signe de vie. L'eau, c'est la vie dans le désert. Et les Bédouins disent ceci, le palmier, c'est un arbre qui a les pieds dans l'eau et qui a la tête dans le feu. Et c'est très intéressant de noter que dans le psaume 92, le juste est comparé au palmier. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Alors, voyez-vous, il y a les deux images que nous retrouvons, le palmier et le cèdre. Ce sont parmi les deux arbres les plus importants que nous trouvons au Moyen-Orient. La tête dans le feu et les pieds dans l'eau. Il y a quelques années de cela, je me trouvais dans un centre où on étudie la Bible et la nature. Une de nos sœurs était avec nous en février dernier dans ce lieu. Et c'est un endroit qui n'est pas propre du tout à la croissance des palmiers. On est dans les montagnes de Juda et le terrain ne se prête pas du tout à la culture du palmier. Et pourtant, là-bas, on a planté des palmiers, mais il a fallu aménager la terre, il a fallu faire des excavations importantes avec des bulldozers, on a apporté de la terre du désert, et on a aussi mis, avant de remettre cette terre, on a mis des grandes bâches plastiques noires, vous savez, pour tenir l'eau, parce que justement, le palmier a besoin de plonger ses racines dans l'eau. Et puis évidemment, on a mis une espèce de piscine autour de ces palmiers, qui faisait que l'eau de la piscine, un bassin plus exactement qu'une piscine, un bassin d'où l'eau s'écoulait justement dans ces bâches, à l'intérieur de ces bâches de plastique qui avaient été posées. Et au bout de quelques mois, les palmiers ont crevé les uns après les autres. À la grande stupéfaction de ceux qu'ils avaient plantés, et on s'est rendu compte que les palmiers avaient plongé leurs racines tellement profond qu'ils avaient percé les bâches de plastique et que toute l'eau qui venait du bassin proche, s'écoulait dans la terre, et que le palmier ne pouvait pas en profiter, c'est pourquoi les palmiers étaient morts. Le palmier est un arbre qui plonge des racines extrêmement profondément, comme le juste. Le juste, il a les pieds dans l'eau, les racines profondément enfoncées dans l'eau. Et l'eau, c'est quoi? Dans la Bible, c'est l'image de la parole de Dieu. Le mot Torah, là, ce qu'on traduit improprement par la loi, a la même racine que le mot moré, le mot pluie. Et par conséquent, pour croître dans la maison de Dieu, le juste, l'enfant de Dieu, a besoin d'avoir les pieds profondément ancrés dans l'eau, les racines profondément ancrées dans la parole de Dieu. Le psaume premier nous rappelle cela. Il est comme un arbre le juste. Il est celui qui médite la Torah de l'Éternel jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas même par les temps de sécheresse comme le fait le palmier. Le palmier a les pieds dans l'eau, mais il a aussi la tête dans le feu. Et le feu nous parle du Saint-Esprit. Voilà. C'est parce que justement le juste a le pied dans l'eau qu'il peut aussi avoir la tête dans le feu. Et c'est très dangereux d'avoir seulement la tête dans le feu si on n'a pas les pieds dans l'eau. Vous avez quelquefois des chrétiens qui ont la tête dans le feu, mais n'ont pas les pieds dans l'eau. Et ça donne un déséquilibre. Nous avons besoin à la fois de la parole et de l'esprit. Sans l'esprit, la lettre tue, et par conséquent, il y a quelque chose qui se dessèche, mais l'esprit sans la parole, c'est aussi extrêmement dangereux. Le juste a les deux réalités qui sont absolument liées l'une à l'autre. Je continue un petit peu sur le palmier. Le palmier est un arbre extraordinaire, un arbre dont on fait à peu près tout. Bientôt, les palmiers vont arriver à maturité, encore un mois et demi à peu près, et ça va être la saison de la récolte des dattes, qui correspond avec la saison des pluies. La saison sèche va s'achever en Israël, et la saison des pluies va venir. Et à cette période-là, la période de la transhumance des bergers dans le désert prend fin. Les pluies venant, les Bédouins vont venir se réfugier dans des cabanes où ils vont passer l'hiver, des cabanes faites de branches de palmiers et couvertes de palmes. Et ce sera aussi le moment de la récolte des dattes. C'est le moment où les bergers rentrent chez eux et une nouvelle année agricole, en quelque sorte, va commencer. Il y a une fête biblique qui évoque cette transition, c'est la fête de Soukhot, la fête des cabanes, où le peuple d'Israël revient vivre, comme le faisaient les Bédouins, dans des cabanes faites avec des branches de palmiers qu'on appelle loulav. Et ces branches de palmiers, elles sont liées entre elles avec des cordes qui sont faites avec les lianes qui poussent autour des troncs du palmier. Vous savez qu'on peut manger le cœur du palmier, c'est très bon. Vous savez aussi que les dattes sont aussi quelque chose de très bon, mais vous savez peut-être moins qu'on donne les noyaux des dattes aux chameaux qui s'en régalent. Et avec le palmier, on fait aussi de la vannerie, des paniers, toutes sortes de choses. Le palmier, c'est un arbre véritablement extraordinaire. Et c'est aussi, je disais tout à l'heure, l'image du juste. Le juste, il a une possibilité infinie de faire du bien à ceux qui l'entourent. Quand il a les pieds dans l'eau et la tête dans le feu, il est un vase d'honneur, comme dira Paul à Timothée, propre, utile à son maître et propre, capable de toutes sortes de bonnes œuvres. Il y a un autre arbre qui est associé au palmier, justement en relation avec ses bonnes œuvres, c'est le grenadier. Le grenadier, comme le palmier, fait partie de ce qu'on appelle les sept espèces du pays de Canaan. Ce sont sept arbres qui sont cités dans le chapitre 6 du livre du Deutéronome, quand le Seigneur dit à Israël, car le Seigneur va te faire entrer, comme vous dites Israël, le Seigneur va te faire entrer dans un bon pays. Et il commence par citer justement le blé, l'orge d'abord, le blé, et il termine par le grenadier et le miel. Le grenadier, il a ceci de particulier, je vais revenir au miel tout à l'heure, mais le grenadier, il a ceci de particulier, qu'il donne des fruits qui sont magnifiques. Et la grenade est l'image de la beauté dans la tradition hébraïque. Et aussi, il est le symbole de la Torah. La grenade est le symbole de la Torah. D'ailleurs, si vous allez dans une synagogue, au moment où l'on sort la Torah de l'Arche Sainte, vous constaterez que cette Torah, elle est décorée, et notamment, elle est décorée avec des bijoux en forme de grenade. Parce que la grenade est le symbole de la Torah, parce que il y a 613 commandements dans la Torah. Si vous ne le savez pas, vous le saurez. Il y a 613 grains dans une grenade. Autant que de commandements qu'il y a de la Torah. Et c'est pourquoi la Torah, qui est aussi l'image de la révélation de Dieu, l'image de la beauté, est comparée à une grenade. Elle fait partie de ces sept espèces du pays de Canaan qui ont ceci de particulier, c'est que ce sont des produits du pays qui arrivent à maturité entre Pâques et Pentecôte et qui sont utilisés pour être offerts, les prémices de ces fruits sont offerts le jour de la Pentecôte au Seigneur. Alors je disais tout à l'heure, la Torah, la grenade, elle est aussi associée au palmier, parce que nous avons vu aussi que le palmier est d'une certaine manière l'image de la Torah, puisqu'il a les pieds dans l'eau, la Torah, Moré en hébreu. Et aussi parce que avec le palmier, on fait du miel. Quand j'étais enfant, à l'école du dimanche, il y avait toujours un texte biblique qui m'avait frappé, qui m'avait étonné, que je ne m'étais pas expliqué. Si vous vous souvenez de cette bataille entre Israël et les Philistins à l'époque de Saül, où Jonathan a réussi à mettre en déroute l'armée ennemie avec son écuyer, et ensuite on poursuit, n'est-ce pas, l'ennemi, Israël poursuit l'ennemi, et il traverse une forêt dont le sol est jonché de miel. Et Jonathan prend son bâton, il le trempe dans le miel, et il mange du miel sur l'extrémité de son bâton. Je n'ai jamais vu une forêt dont le sol est recouvert de miel. Comment ça peut se faire? Or, il faut savoir que l'expression biblique, le pays où coule le lait et le miel dont il est question ici n'est pas du miel d'abeille, mais c'est du miel de datte. La datte, si vous ne la récoltez pas, et il y avait à l'époque biblique, notamment dans la vallée du Jourdain, des forêts de palmiers sauvages, il y a plus de 200 espèces de palmiers différentes. Et donc ces palmiers qui étaient des forêts d'arbres touffus, eh bien, les dattes n'étaient pas récoltées. Et si la datte n'est pas récoltée, elle se dessèche et le sirop de la datte s'écoule et tombe par terre. Effectivement, à la fin de la saison des dattes, c'est-à-dire, disons, fin octobre à peu près, l'époque de Soukhot, eh bien, si vous traversez une forêt de dattiers sauvages, vous pataugez dans une espèce de sirop qui ressemble à du miel. Et si vous le goûtez, ça a le goût de miel. Vous voyez bien que c'est un miel qui est un miel particulier. Mais ça a un goût de miel, et aujourd'hui c'est commercialisé en Israël. Vous pouvez acheter du miel de date. Si vous allez un jour là-bas, je vous recommande d'en ramener, c'est délicieux. Le pays où coule le lait et le miel de date. Et ces forêts étaient des forêts extrêmement touffues. Et là, eh bien, il a fallu que le peuple d'Israël défriche pour pouvoir justement s'installer. Maintenant, je voudrais parler d'un autre arbre très très important, deux autres arbres très importants, toujours associés avec le palmier, le sycomore. Nous lisons toujours dans le livre des rois, le premier livre des rois, dans le chapitre 10 de ce premier livre des rois, ceci n'est-ce pas que Salomon a rendu, voyons c'est verset 27, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres, il rendit les cèdres aussi communs que les sycomores. Le cèdre, nous avons vu, c'est un arbre rare et précieux. Le sycomore, c'était un arbre tout à fait commun, tout à fait courant, qui pousse un peu partout, et qui pousse aussi souvent en bordure du désert. Le sycomore, c'est un arbre aussi qui était employé en menuiserie, mais c'était aussi un arbre dont on recueillait des fruits. Mais le fruit, pour être comestible, avant qu'il n'arrive à maturité, doit être piqué pour justement éviter qu'il ne soit dévoré par un insecte particulier. C'était un travail long et fastidieux que de piquer les fruits des sycomores. Et souvent, c'était les bergers qui s'en chargeaient. Les bergers, donc, gardaient leurs troupeaux. Ils avaient donc du temps. Pendant que les troupeaux étaient en train de paître, ils pouvaient employer ce temps à piquer les sycomores tout en surveillant depuis le sommet des arbres leurs troupeaux qui paissaient aux environs. Et comme parfois les pâturages n'étaient pas aussi nombreux que cela, eh bien, les bergers négociaient avec les cultivateurs le droit de pacage, de faire paître leurs troupeaux dans des endroits cultivés en échange du travail qui consistait à s'occuper des fruits des sycomores. Et c'était le travail notamment d'un grand prophète qui nous est évoqué dans la Bible, le prophète Amos, qui était berger et qui s'occupait des sycomores. Et le sycomore est un arbre qui repousse très très facilement si on le coupe. Il est quasiment indestructible. Et c'est la raison pour laquelle il était apprécié aussi, parce qu'on pouvait toujours, le pauvre pouvait manger des fruits du sycomore s'il savait s'y prendre. Et le sycomore était l'image de la régénération. Nous avons un épisode très intéressant dans l'Évangile, lorsque Jésus passe à Jéricho. Jéricho était une oasis où, encore aujourd'hui, il y a deux types d'arbres essentiels qui poussent, le palmier et le sycomore. Et voilà, Jésus était annoncé dans cette ville. On savait qu'il allait y faire étape. Et chacun, évidemment, cherchait à avoir le privilège d'héberger Jésus. Chez qui Jésus allait-il habiter? Ah bien, peut-être chez un pharisien célèbre, un docteur de la loi. Ou bien peut-être chez celui qui te tiendrait aujourd'hui le rôle de maire du village ou de la ville. Et voilà, on se bousculait pour voir Jésus. Et il y avait un personnage à Jéricho que vous connaissez sans doute. Il se nommait Zachée. Son vrai nom, c'est Zacchaï en hébreu. Zachée, c'est sa forme grecque. Un rabbin célèbre portait ce nom. Seulement, le problème de Zachée, outre le fait qu'il était de petite taille, c'est qu'il n'était pas très honnête. Et par conséquent, il était haï. Il était collecteur d'impôts et il avait escroqué bien des habitants de Jéricho qui lui gardaient rancune. Et voilà, quand Jésus est passé, Zachée, qui était de petite taille, essayait d'écarter la foule. Mais on dit, Zachée, là, tu veux voir Jésus? Ah ben, tu ne passeras pas, tiens. Ce sera une manière de te rendre au moins le mal que tu nous as fait. Alors voyons qu'il n'arrive pas à écarter la foule. Que fait Zachée? Il monte sur un sycomore. L'arbre de la régénération. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus s'arrête en bas de l'arbre. Il dit, Zachée, descends de ton arbre. Parce que c'est chez toi que je vais habiter ce soir. Comment? La foule dit, mais comment? C'est chez Zachée. C'est lui que tu vas honorer. Ce pourri, cet homme malhonnête. Et j'ai dit oui. Zachée, bien sûr, est le premier surpris. Il ne s'attendait pas à un tel honneur. Mais vous pensez bien qu'il se dépêche de descendre de son arbre. Et il dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et tout le mal que j'ai fait, je le rends au quadruple. Et Jésus dit, oui, le salut est entré dans cette maison, car cet homme est aussi un fils d'Abraham. Il y a une puissance de régénération. Et voyez-vous, en montant sur ce sycomore, Zachée était entré dans ce processus de régénération qui avait été évidemment accompli par Jésus, mais dont ce sycomore était l'image. Une puissance de régénération, toutes choses deviennent nouvelles lorsqu'on se tourne vers Jésus. Autre arbre extrêmement important, le figuier. Le figuier, c'est un arbre très spécial. Et le figuier, il a une particularité, ont noté les sages d'Israël, c'est qu'aucune feuille ne ressemble à l'autre. Le figuier, bien souvent, est l'image d'Israël. Il a aussi des fruits qui servent en médecine. Nous savons que le roi Ézéchias, qui était malade à la mort d'un ulcère, avait été soigné par une masse de figues qui avait été appliquée sur son ulcère. Mais c'est aussi l'image de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on dit les sages, on peut reprendre le même verset biblique X fois et on sera toujours quelque chose de différent qu'on va trouver dedans. De la même manière que aucune feuille de figuier ne ressemble exactement à aucune autre, de la même manière, vous pouvez revenir 100 fois sur le même verset biblique et vous trouverez toujours des choses nouvelles et différentes. Les sages ont dit, chaque verset biblique a 70 interprétations possibles. Et on raconte l'histoire de ce rabbin qui avait donné un devoir à un de ses élèves, en lui disant, tiens, voilà ce verset, va-t'en et trouve-moi les 70 significations différentes de ce verset. Et notre homme s'en va, il travaille d'arrache-pied, et au bout d'un temps, il revient vers son rabbin avec une pile de feuilles comme ça, dit, voilà, ici il y a les 70 interprétations bibliques. Alors le rabbin jette un coup d'œil, il dit, c'est bien, maintenant va et trouve la 71e. Voyez-vous, on n'a jamais fini. Maintenant, le figuier a aussi cette particularité, c'est que c'est un arbre messianique. Il annonce la venue du Messie. En effet, il est un des premiers arbres aussi à fleurir. Et nous disons ça aussi, bien sûr, dans l'Évangile. Vous vous souvenez de ce que dit Jésus? Regardez le figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, vous savez vous-même que l'été est proche. Ainsi, quand vous verrez ces choses arriver, les signes de son retour qu'il a annoncé, sachez que le Fils de l'homme, le Messie, est à la porte. Et le figuier est un arbre qui, en même temps, est un signal, comme un autre arbre d'ailleurs, qui est l'amandier. L'amandier qui se dit en hébreu « shaked », ce qui veut dire littéralement « le veilleur ». Vous vous souvenez du prophète Jérémie, quand le Seigneur l'appelle un ministère prophétique, il lui donne une vision, il lui dit « Que vois-tu, Jérémie ?» Et Jérémie dit « Je vois une branche de shaked », une branche d'amandier. Évidemment, quand vous lisez ça en français, le jeu de mots en hébreu est complètement perdu. « Je vois une branche de shaked », »,« je vois une branche de veilleur ». Le Seigneur lui dit, tu as bien vu Jérémie, qui a ni choquette d'alvaraï. Car moi, le Seigneur, je choquette, je veille sur ma parole. Tu as vu le veilleur, donc parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. l'amandier et le figuier sont les deux premiers arbres à fleurir à la mi-février, grosso modo, au moment où prend fin l'hiver en Israël. Évidemment, l'hiver prend fin beaucoup plus tôt que chez nous. Mais à ce moment-là, on voit effectivement les branches de l'amandier et les branches du figuier qui sont en train de redémarrer. Et il y a d'ailleurs une fête spéciale. Quand on voit l'amandier et le figuier qui fleurissent, on appelle ça le nouvel an des arbres. C'est une nouvelle année pour la végétation qui commence. Et c'est pourquoi, justement, le figuier était l'image de la venue du Messie. Et quand on était avec un rabbin, on pensait qu'aller étudier la Torah à l'ombre d'un figuier, c'était quelque chose qui permettait d'ouvrir l'esprit. On était à l'ombre, d'une part. Et vous savez, les rabbins, comme Jésus faisait d'ailleurs, souvent enseignaient en plein air. Et on allait sous des arbres et plus généralement sous un figuier pour étudier la Torah. Et plus particulièrement étudier la Torah en relation avec la venue du Messie. Et vous avez un texte très intéressant dans Jean, l'évangile de Jean, où au début de son ministère, Jésus voit venir vers lui un homme qui s'appelle Nathanaël. Et quand il le voit venir à lui, alors qu'il a été appelé par son frère, en disant « Nous avons trouvé le Messie !» Qui c'est ? Jésus de Nazareth. Nazareth ? Mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Je vais parler de Nazareth dans un instant et je terminerai par ça. Et son frère lui dit « Viens et vois. » Et quand Jésus le voit arriver, il dit « Voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël dit « Mais enfin, d'où est-ce que tu me connais ?» Et Jésus lui dit « Quand tu étais tout à l'heure sous le figuier, je t'ai vu. » Tiens, d'abord c'était le miracle, bien sûr, mais qu'est-ce que Nathanaël faisait sous un figuier, à votre avis ? Eh bien, il méditait la Torah, il étudiait la Torah. Et plus particulièrement, il attendait le Messie. Il étudiait les textes relatifs à la venue du Messie. Comment peut-on le savoir aussi ? Parce que son frère lui dit « Nous avons trouvé le Messie ». Donc cet homme était dans l'attente du Messie. Il vivait dans l'attente du Messie et il était sous un figuier pour essayer de discerner qui était le Messie et quand le Messie viendrait. Et quand il entend Jésus lui parler de cette manière, il dit « Rabbi, tu es véritablement le Messie ! Tu es le roi d'Israël. » Voilà. Alors, le figuier est cette image de la Torah en relation avec le Messie, comme dira Paul, le Messie est le but de la Torah, celui qui lui donne son sens, celui qui lui donne sa signification. Deux arbres avant de terminer, rapidement, la vigne. Elle aussi un des symboles d'Israël. La vigne, c'est aussi quelque chose qui est spécifique à ce pays. On exportait le vin d'Israël, il était très très réputé. Jésus employait souvent des paraboles tirées de la vigne, comme l'avait fait avant lui le prophète Ésaïe au chapitre 6. Il y a ce poème de la vigne, comme on l'appelle, « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile ». La vigne est cultivée sur des terrasses qu'on voit encore au flanc des collines, qui sont délimitées par des murets de pierres sèches. Et la terre est souvent une terre peu riche, n'est-ce pas ? C'est toujours là que la vigne pousse. Et en même temps, il y a des canaux d'irrigation qui amènent l'eau justement pour permettre à la vigne de croître. Ces murets de terre sèche, ils sont souvent garnis d'épines, de grandes épines, n'est-ce pas, on appelle le Poterium spinosus, pour ceux qui voudraient exactement le nom scientifique, je ne sais pas comment on dit en français. Et ce sont des plantes qui servent de barbelés, en quelque sorte. Ça veut dire que les animaux sauvages qui voudraient ravager la vigne ne peuvent pas escalader les murets parce qu'ils se piqueraient avec ces grandes épines qui les enfonceraient dans leur chair. C'est ce qu'on appelle une clôture. Mon bien-aimé avait entouré sa vigne par une clôture. Et puis, Ensuite, on mettait des pierres. Aujourd'hui, on met des tuteurs pour empêcher les vignes de reprendre racine. Vous savez, si vous ne laissez pas la vigne, si vous laissez la vigne retomber sur le sol, eh bien, elle va faire une bouture à l'endroit où elle va arriver sur le sol. Et la bouture va se séparer du cep initial. Elle va croître par elle-même, mais elle va donner un raisin très particulier qu'on appelle en hébreu, d'un terme qui est intraduisible, on appelle Beushim. Ça veut dire des raisins qui vont être non seulement petits, mais qui vont manquer de résistance. Ils ne pourront pas résister à des maladies qui viendront sur eux. Et finalement, ces raisins-là vont dépérir. Et dans la parabole de la vigne du chapitre 6, Ésaïe dit ceci: Dieu a planté Israël comme une vigne, et il a fait tout ce qu'il fallait pour que cette vigne puisse porter du bon raisin. Il a mis une clôture avec des épines, comme on l'a vu tout à l'heure, il a mis un canal d'irrigation, il a mis une tour de guet, on voit des tours de guet encore dans les vignes, où on entreposait le vin aussi parce que c'était frais, et puis il a attendu qu'elle ait des bons raisins. Et pourtant, bien qu'il ait fait tout ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas, elle a produit des raisins Beushim. Ça veut dire que, comme une vigne sauvage, comme une vigne qui n'est pas traitée. Et ces raisins qui sont l'image du peuple font que, s'étant tourné vers les idoles, le peuple d'Israël n'a pas la force de résister à cette maladie d'idolâtrie. Il n'a pas la force de résister au péché parce qu'il s'est détaché du cep. Et nous trouvons cette même parabole dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Si vous êtes des sarments qui ne restez pas attachés au cep, eh bien, vous ne pouvez pas porter de fruits. Vous allez être comme un sarment qui devient autonome, qui se sépare du cep et qui va produire des raisins rabougris, des raisins qui n'arrivent pas à maturité, qui sont incapables de résister à la tentation, qui sont incapables de résister à la maladie de la vigne, qui sont incapables de résister au péché. Vous allez être emportés par la puissance du péché, parce que hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Dernier point, et j'en aurai fini, l'olivier. L'olivier qu'on appelle l'arbre de lumière. Pourquoi ? Parce que, d'une part, vous avez beaucoup d'oliviers ici dans cette région, beaucoup d'arbres que j'ai cités poussent aussi dans votre région, pas dans la nôtre en Bretagne. Et vous, quand vous verrez un olivier, si vous ne l'avez jamais remarqué, vous remarquerez que les feuilles de l'olivier sont argentées en dessous. Il suffit de la soulever. Et en Israël, je ne sais pas si c'est la même chose ici, quand il fait très chaud, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? L'olivier tourne ses feuilles de l'autre côté, du côté, de telle manière que le rayon du soleil vienne se refléter sur cette partie argentée et que la chaleur n'incommode pas l'arbre. Et quand vous traversez une oliveraie, une vigne d'olivier, on dit en hébreu, une vigne, ça peut être à la fois une vigne de raisin, ça peut être aussi une vigne d'olivier. Et quand vous traversez une vigne d'olivier à l'heure du midi par forte chaleur, vous avez l'impression que tous les oliviers sont en feu. L'arbre de lumière. L'arbre de lumière aussi parce que, avec les olives, on fait de l'huile. Et l'huile, elle servait à l'époque biblique à brûler dans les lampes, donc à s'allumer. Et l'olivier est l'arbre qui apporte la lumière au monde. Il est l'image d'Israël, encore aujourd'hui. Les armoiries d'Israël, c'est une menorah avec deux oliviers. Et il est l'image du Messie. Le Messie qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Et le Messie qui a été dans ce jardin de Gethsémané. Ce jardin Gatchmanim, ça veut dire le pressoir à olives. Et les sages ont dit « Pour pouvoir apporter la lumière au monde, l'olivier doit être broyé, écrasé. » Et dans le jardin de Gethsémané, le pressoir à olives, Jésus le Messie, la lumière du monde, a été écrasé sous le poids du péché pour pouvoir apporter la guérison, le salut et la lumière au monde entier. Salomon a parlé sur tous les arbres. Nous n'allons pas parler sur tous les arbres parce que le temps passe. Mais nous voyons justement cette grande richesse que le texte biblique nous apporte lorsque nous regardons la nature d'Israël. C'était un sage, c'était un des pionniers du début du XXe siècle qui était venu s'installer en Israël et qui avait son slogan était celui-ci, c'était sur son lit, s'appelait Gordon, « Écoute la nature ». La nature aussi te parle de Dieu. La nature rend témoignage de ces choses qui ont été écrites aussi dans la parole de Dieu. Il y a deux livres de Dieu, le livre de la nature et le livre de la Bible. Et quand on prend ces deux livres, on est enrichi, on est édifié, on est construit par le Seigneur. Et ma conclusion sera celle-ci, cette parole de Jésus. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. On ne cueille pas des figues sur des chardons, ni des raisins sur des épines. J'aurais pu parler aussi des mauvais arbres. Il y en a beaucoup aussi. Mais j'ai parlé des bons arbres, parce que c'est à cela que nous sommes invités à nous identifier. Et ma conclusion ce matin sera celle-ci. Quel genre d'arbre es-tu ? Tu peux le savoir en regardant le fruit que tu portes.